Bonsoir. Ouverture ce lundi à Kinshasa des états généraux sur l'état de la justice en RDC. Objectif, poser un diagnostic du fonctionnement de l'appareil judiciaire en RDC, évaluer les réformes déjà entreprises et formuler des recommandations autour des réformes et actions prioritaires qui devraient encore être mises en œuvre. Comment analyser ces états généraux? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 27 avril 2015. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Koukou Kiesse, secrétaire général du syndicat autonome des magistrats du Congo. Monsieur Kiesse, bonjour. Bonsoir plutôt.
Bonsoir.
Maître Achille Kabongo, président de l'Institut congolais d'études et d'analyse stratégique. Maître Achille Kabongo, bonsoir.
Bonsoir.
Et Géraldine Mathiolis, directrice du plaidoyer pour la justice internationale à Human Rights Watch. Géraldine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Thierry Kagene de Benin au Nord Kivu. La justice congolaise est en branle. Tant qu'elle ne recouvre pas encore son indépendance, elle fonctionnera toujours au gré de l'exécutif. Ainsi, parler des états généraux de celle-ci est une chose. Appliquer les recommandations en est une autre. Sam, depuis le Maniema, félicitations au ministre de la Justice, mais je doute que cela aboutisse aux résultats escomptés, car ce n'est pas la première fois que nous entendons ce slogan de la part de nos autorités. Merci de nous suivre par ton RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Radio
Capi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Ouverture ce lundi des états généraux de la justice par le chef de l'État, Joseph Kabila. Dans son discours de circonstance, le chef de l'État a notamment indiqué que malgré les réformes entreprises dans le secteur de la justice, les justiciables ne trouvent toujours pas leur compte. On écoute le président Joseph Kabila dans ses propos recueillis par Jeff Ngoy.
Si j'ai demandé au gouvernement d'organiser les présentes assises, c'est parce que j'ai une conviction profonde qu'en dépit des avancées que nous enregistrons sur le terrain de réformes institutionnelles dans le secteur de la justice, les comptes sont loin d'être faits sur ce qui intéresse les justiciables. Il s'agit de ce qui touche à la dignité de l'homme, à la sécurité de son patrimoine et aux transactions grâce auxquelles il participe à la création de la richesse nationale. Pour rencontrer ces aspirations, l'accès à la justice demeure un impératif majeur afin que chaque citoyen, où qu'il soit, accède à son juge naturel pour faire valoir ses prétentions. Ce qui importe par ailleurs, c'est le changement de mentalité de tous les acteurs du secteur de la justice, qui doivent, en toutes circonstances, avoir un comportement exemplaire qui inspire la confiance et le respect de citoyens.
C'était là Joseph Kabila, chef de l'État. Et selon le ministre des tutelles, ces assises d'une semaine vont faire une autocritique et prendre des mesures pour améliorer ces secteurs. Des magistrats, avocats, défenseurs de droits de l'homme et professeurs de droit sont appelés à réfléchir sur les maux qui rongent la justice congolaise et ont proposé des solutions au reportage. Jeff Ngoy.
9 groupes de travail sont mis en place. Leur mission est de dresser le bilan de la justice congolaise, en dépit de nombreuses lois qu'elle dispose, de poser un diagnostic sincère autour des thématiques telles que indépendance de la justice, organisation, compétences et procédures judiciaires, lutte contre l'impunité, accès à la justice. Le ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, parle de la prise à partie des magistrats dont doivent se saisir les justiciables.
Beaucoup de citoyens ne savent pas que lorsque un magistrat manifestement quand il a rendu sa décision, a fait preuve soit d'incurie, soit qu'il est apparu très clairement qu'il a été corrompu, il peut faire l'objet d'une procédure de prise à partie.
Le président de l'intersyndicale des magistrats et juge à la cour d'appel de la Gombe, Thomas Otchoudi, réagit à l'interpellation faite par le chef de l'État sur le travail des magistrats.
Le chef de l'État a exprimé un vœu en vue de trouver des solutions pour que notre justice soit impartiale.
Les derniers états généraux de la justice remontent à 1996. Aujourd'hui, le cap est aussi mis sur la formation des magistrats. Grâce au partenariat de l'Union européenne, une nouvelle école de formation des magistrats sera construite dans quelques semaines et après 20 mois, elle accueillera les licenciés en droit qui entrent dans la carrière.
Merci Jeff Fungoy pour ce reportage. Coucou Kessé. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat autonome des magistrats du Congo, SINAMAC en sigle. Comment vous analysez d'abord la tenue de ces états généraux de la justice?
Mon analyse est simple. D'abord, je suis extrêmement heureux que finalement le gouvernement ait eu à organiser cet état général de la justice, parce que dans le cadre de notre syndicat, le syndicat autonome des magistrats du Congo, SINAMAC en sigle, nous avons toujours voulu, il y a plus de 10 ans, que ces états généraux soient organisés, afin que le mal qui ronge, ou le virus qui ronge la justice, essentiellement la corruption, en soit extirpé. Mais au-delà de la corruption, il y a d'autres maux qui rongent également la justice congolaise, la médiocrité, l'incompétence, etc. Donc ce sont des mots qu'il faudrait analyser au-delà d'une activité syndicale. Il faudrait que la nation prenne conscience de ces mots. Et je suis heureux que le président de la République en personne puisse organiser l'ouverture de ces travaux pour marquer l'importance que toute la nation devra donner à la justice. Donc le cri d'alarme que nous avons toujours lancé il y a plus d'une décennie est maintenant pris en compte par le gouvernement et nous espérons que ces travaux se feront dans la profondeur scientifique qu'il faut et que la rationalité de ces travaux finira par faire comprendre à nous, magistrats premièrement, et à tous les justiciables congolais et étrangers que la justice est un secteur viable pour la démocratie dans notre pays, c'est un secteur viable pour la sécurité des personnes de leurs biens et c'est un secteur qui doit fonctionner selon les principes qui sont tracés par la Constitution de la République, à savoir premièrement l'indépendance et deuxièmement la transparence et pourquoi pas l'impartialité. Donc pour nous, au niveau du SINAMAC, nous sommes heureux, mille fois heureux que ces états généraux se tiennent. Et
alors le chef de l'État invite tous les acteurs du secteur de la justice au changement des mentalités. Vous êtes conscient qu'il faut vraiment changer les mentalités des acteurs du secteur de la justice, RDC?
Nous en sommes pleinement conscients parce que notre syndicat a toujours eu à le dire. Peut-être qu'on a été mal suivi, mais nous pensons que maintenant le gouvernement nous a compris parce que nous sommes parmi les syndicats gèrent le magistrat, nous sommes parmi le rare qui dit clairement qu'il y a la corruption au sein de la magistrature, qui dit clairement qu'il y a des maux au sein de la magistrature, qui dénonce la médiocrité. Et si aujourd'hui le gouvernement amorce ce pas pour en faire une ouverture générale, afin que tout le monde en parle, nous estimons au niveau du SINAMAC que c'est une bonne chose, elle est la bienvenue. Mais nous voulons également que cela soit fait en profondeur pour que réellement, au sein de la magistrature, les choses changent.
Alors, selon vous, monsieur Kessé, coucou, quelles sont les causes de tous ces mots, corruption, politisation de la justice, quelles en sont les causes?
Les causes sont multiples, mais la cause essentielle qui a miné et rongé la justice au Congo, c'est dû à l'état, de pauvreté de magistrats qui, s'enroulant, a entraîné en fait une corruption généralisée du corps judiciaire. Ce qui fait que le principe clé de la justice n'a jamais été respecté, à savoir l'indépendance. Parce que par indépendance, on n'attend pas toujours voir les autres pouvoirs avoir de l'embonpoint sur le magistrat. Mais on attend voir d'abord le magistrat, essentiellement le juge, prendre ses décisions sous l'autorité unique et exclusive de la loi. Donc c'est une chose qui, dans la magistrature, pose problème pendant plusieurs années, d'autant plus qu'il y a la corruption qui a rongé l'œuvre des magistrats. Et à ce jour, à part la corruption, il y a d'autres maux qui sont maintenant en surbrillance. Il y a vraiment une médiocrité incroyable à travers certains travaux qu'accomplissent les magistrats. Je le dis, je m'assume, parce que je suis syndicaliste. Et je pense qu'on ne pouvait pas laisser la magistrature tomber trop bas et aller de médiocrité en médiocrité, de corruption en corruption, jusqu'à salir l'image entière de toute la justice, ce qui fait que quand on est magistrat, on se sent plus bien dans sa peau. Et j'estime que nous devons que ces états généraux doivent être soutenus par tous les magistrats, afin que la corruption soit le virus contre lequel tout le monde doit s'attaquer, les magistrats en première position et toute la nation après nous.
En 96, disons, en 96, il y a eu des assises similaires. Malgré ces assises, on retrouve toujours les mêmes mots dans le fonctionnement de la justice congolaise. Est-ce que ça veut dire que les recommandations issues des assises de 96 n'ont pas été appliquées?
C'est cela la problématique. C'est-à-dire, on tient les assises, on tient les états généraux, mais il faudrait que les recommandations soient mises en pratique, soient appliquées, qu'on y apporte des solutions positives, que ce soit en termes de principes légaux, que ce soit en termes de principes réglementaires. C'est-à-dire, s'il y a des modifications à faire, on le fait. Mais ce qui est important, c'est le facteur humain, le personnel judiciaire, et en première ligne, le magistrat. C'est-à-dire qu'il faut mettre le magistrat qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ça le problème. Lorsqu'on détecte qu'un magistrat a une moralité douteuse, ce n'est pas bon de le placer à la tête d'une juridiction ou d'un office de parquet.
Merci, monsieur Koukou Kiesé. Maître Achille Kabongo, vous êtes président de l'Institut congolais d'études et d'analyse stratégique. Quelle est votre lecture de l'organisation de ces états généraux de la justice?
Merci beaucoup, madame, pour la parole. En tant que président de l'Institut congolais d'études et d'analyse stratégique, j'ai l'habitude de mettre le doigt sur la plaie, c'est-à-dire de remuer le couteau dans la plaie et d'insister sur ce qui fâche. Je vais vous dire, madame, ceci. Le premier substitut, Eric Koukou, vient de dire qu'il s'estimait heureux que le gouvernement puisse tenir ces états généraux. Mais moi, j'ai dit que, avant de regarder la paille qui est chez le voisin, commencez par regarder la poutre qui est dans votre œil. Il y a multiplicité de syndicats au sein de la magistrature et manque de cohésion. Donc, le changement de mentalité commence par les magistrats eux-mêmes. Ils n'ont pas de cohésion. Il y a une multiplicité de syndicats à ce niveau. J'aimerais dire à M. Eric de ne pas s'estimer heureux. Il devrait commencer surtout par se poser des questions. Deuxièmement, c'est scientifique ce que je vous dis là. Il y a manque de continuité des politiques gouvernementales chaque fois qu'il y a un changement à la tête du ministère de la Justice. Je prends le cas. J'ai été le coordonnateur adjoint de la cellule technique de lutte contre la corruption du ministère de la Justice sous Luzolo Bambi. Oui. Écoutez, en ce qui concerne par exemple la prise à partie, Luzolo était déjà allé très loin. Il avait demandé que lorsqu'une procédure de prise à partie est engagée contre un magistrat, qu'il y ait automatiquement ouverture d'une action disciplinaire et privation de salaire. Il avait demandé au Parlement à l'époque de voter une loi. La loi n'a pas été votée. Mais regardez aujourd'hui, chaque fois qu'un ministre vient en remplacement d'un autre, il fait table rase de ce que le premier faisait et recommence avec ses propres modalités. Ce qui fait que nous revenons toujours à la case de départ. Il n'y a pas une continuité dans la politique d'administration de la justice, dans la politique de conception de projet. C'est-à-dire chaque ministre de la justice qui vient efface ce que le premier avait fait et ne continue pas sur les premières lancées. Je peux vous dire, où est aujourd'hui la cellule technique de lutte contre la corruption du gouvernement? Et là, je dois féliciter le premier ministre, M. Adolphe. Il avait créé cette cellule au sein du cabinet du ministre de la justice et qui fonctionnait. Moi qui étais de la société civile, M. Luzolo Bambile, ça m'avait demandé d'aller coordonner cette cellule-là. Et j'ai commencé la coordination. Mais comment les travaux se sont achevés? Je vous épargne de certains détails. Je vais au troisième aspect scientifique. Je demande à son Excellence le ministre Tambwe Mwamba. C'est un homme que j'apprécie pour son raffinement. S'il est en train de m'écouter, son Excellence veuillez réhabiliter la cellule technique de lutte contre la corruption qui a été créée par son Excellence Adolphe Mozito. Troisièmement, madame, c'est très grave. Le premier substitut, Eric Koukou Kiesé, qui est dans ce studio, n'est pas indépendant quand il exerce sa magistrature. pas du tout indépendant. Et la faute, ce n'est pas moi qui parle, c'est la Constitution. Quand vous prenez la Constitution du 18 février 2006, en son article 149, il est dit « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Il est dévolu aux cours et tribunaux et aux parquets qui y sont rattachés. » Mais lorsqu'il y a eu modification de la Constitution, amendement ou révision de la Constitution, pour introduire les principes du scrutin majoritaire à un tour, il y a eu glissement par les députés à l'époque. Le Parlement, l'ancien Parlement, a fait un glissement. Il est allé toucher à l'article 149 de la Constitution. On a scalpé le parquet. Donc, quand vous voyez le premier substitut Eric Koukou qui est dans ce studio, il n'est pas indépendant. Comment se présente l'actuel article 149 de la Constitution ? Il dit ceci. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Il est dévolu aux cours et tribunaux. On a élagué les parquets qui y sont rattachés. Et quand vous projetez cela sur l'appareil judiciaire, c'est-à-dire, la magistrature s'exerce par délégation. S'il vous plaît, madame, laissez-moi développer.
Non, on n'a pas.
C'est scientifique.
Non, je vais vous laisser le temps, Maître Achille Kabongo. On a un chrono de... Bon, nous, on doit respecter le temps de parole pour tout le monde.
Rapidement pour vous dire que ces assises, je trouve que c'est des vernis, tout simplement, de façade. Les problèmes sont très graves, madame. Je vais vous dire, on n'a pas élagué en République démocratique du Congo les privilèges de poursuite, les privilèges d'instruction, les privilèges de juridiction, les immunités et
ça
autres.
Ça pourrait peut-être être l'occasion d'en parler.
Écoutez, on a enlevé l'indépendance de la magistrature.
Merci, maître.
C'est-à-dire, même le procureur général de la République n'est pas indépendant conformément à l'actuelle Constitution.
Merci.
C'est très grave.
Merci, maître Achille Kabongo. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Alors, Mathioli Géraldine, directrice du plaidoyer pour la justice internationale à Human Rights Watch, quelle est votre analyse par rapport à la tenue de ces états généraux de la justice?
Oui, merci beaucoup de m'avoir invitée. D'abord, je voudrais peut-être préciser rapidement que je ne suis pas une experte du système judiciaire en République démocratique du Congo. Ce qui nous intéresse à Human Rights Watch et dans mon programme de justice internationale, c'est un aspect très particulier de cette justice qui est la justice pour les crimes les plus graves. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité qui se passent en ce moment au Congo, à l'est du Congo, qui ont lieu depuis le début des années 90. Donc c'est vraiment cet aspect-là que nous avons étudié d'un peu plus près. Je crois que cette semaine d'états généraux, c'est une opportunité. Nous y participerons. Je pense que d'autres organisations de la société civile congolaise seront présentes, ainsi que de la société civile internationale, parce qu'à notre sens, c'est une opportunité, en effet, de faire ce bilan, de regarder les choses positives qui ont été faites, les progrès, les réformes qui ont eu lieu, et en effet, de continuer à mettre le doigt sur là où ça coince, et qu'est-ce qui continue de bloquer une lutte contre l'impunité efficace en RDC. Je crois, on le sait tous, il y a eu quelques procès qui se sont tenus devant les juridictions militaires. J'en ai compté environ une trentaine les 10 dernières années qui portaient sur crimes de guerre, crimes contre l'humanité. C'est un début, c'est très important. La République démocratique du Congo est peut-être un des seuls endroits au monde où on juge ce type de crime, donc c'est positif. Mais il y a beaucoup de problèmes dans ces procès. Ça reste la plupart du temps contre des personnes de rang mineur, des officiers mineurs ou bien des personnes de groupes rebelles. Donc il y a encore des choses à améliorer et de notre point de vue, les états généraux seront une opportunité d'amener nos recommandations, de dire ce que nous pensons continuer de bloquer la lutte contre l'impunité. Après, je suis d'accord avec les deux intervenants. La preuve de l'engagement du gouvernement, c'est pas simplement la tenue de ces états généraux, mais ce sera bien la mise en œuvre des recommandations. Donc très bien, nous allons tous travailler ensemble, nous allons avoir une liste de recommandations à la fin de la semaine. Pour une organisation comme la nôtre, comme Human Rights Watch, la preuve de l'engagement du gouvernement, ce sera bien qu'est-ce qui va se passer ensuite avec la mise en œuvre de ces recommandations.
Alors vous avez posé un diagnostic de la lutte contre l'impunité devant les tribunaux nationaux. D'après les explications que vous avez données, est-ce qu'il faut retenir que le bilan est... mitigée.
Mitigée, je crois que c'est ça. Il faut voir, donc, la République démocratique du Congo, c'est quand même un des pays dans lesquels on a les crimes les plus graves, des atrocités vraiment choquantes qui sont commises sur une base quotidienne contre les populations civiles à l'est du Congo, par des groupes rebelles, mais aussi parfois, malheureusement, par des soldats de l'armée régulière de la République démocratique du Congo. Et je crois qu'il y a vraiment une urgence à donner justice aux victimes de ces crimes. Pour nous aussi, pour notre organisation, nous pensons qu'il y a besoin d'un signal très fort de montrer que ces crimes ne seront plus tolérés, et qui que ce soit qui les commette. Et je crois pour l'instant, en RDC, il y a quand même le sentiment que si on est petit, si on est un petit poisson, peut-être qu'en effet on pourra être un jour jugé devant un tribunal militaire, mais les gros poissons échappent toujours à la justice. Il y a toujours des gens qui sont protégés et qui ne seront pas jugés. Et ça, c'est un signal extrêmement dangereux, parce que ça montre que la justice ne fonctionne pas, et ça montre qu'on peut toujours s'échapper et on peut toujours bénéficier de l'impunité si on a les bonnes protections aux bons endroits. Et donc, je crois qu'il y a des progrès qui ont été faits, mais il y a encore beaucoup à faire pour essayer de résoudre ce problème qui est, à mon avis, le problème majeur de la justice en République démocratique du Congo aujourd'hui. Comment faire en sorte que cette justice s'applique de façon égale à tous, qui que ce soit qui commette les crimes en question?
Alors, vous pensez que ces États généraux pourraient être l'endroit idéal pour discuter de ces problèmes d'impunité et trouver des solutions afin d'y mettre fin?
Oui, je crois que c'est important de prendre cette opportunité. Il y aura plusieurs groupes de travail. Il y aura un groupe de travail qui va s'intéresser à la lutte contre l'impunité en particulier, dans laquelle on pourra discuter des recommandations. De notre côté, par exemple, il nous semble tout à fait critique que le gouvernement adopte une politique pénale claire en matière de lutte contre l'impunité. Je crois un des intervenants précédents a dit ça change toujours d'un gouvernement à l'autre. C'est mon expérience également. Je crois chaque gouvernement, on a des idées un peu différentes de ce qu'on veut faire en termes de lutte contre l'impunité. Et ça résulte dans des projets qui vont un petit peu dans tous les sens, de la part du gouvernement, mais aussi de la part des partenaires de développement qui financent peut-être quelque chose dans ce sens et puis les autres dans un autre sens. Et finalement, on ne sait pas vraiment où on va. Et donc, de notre côté, on voudrait voir une politique pénale claire qui parle de coopération avec la Cour pénale internationale, qui mettent en œuvre ce projet de chambre spécialisée mixte que le ministre Luzolo avait porté et qui avait été représenté l'année dernière sous la ministre Vivine Matupa. Donc, finir cette initiative des chambres spécialisées mixtes, c'est important à notre avis.
Merci.
Pour nous, il est aussi important que la lutte contre l'impunité puisse être transférée aux cours civils et non pas aux cours militaires. Donc ça, ce sont quelques exemples. Aussi, créer un pôle d'enquêteurs, de magistrats, de procureurs spécialisés, c'est important. Ce sont quelques mesures que nous allons porter cette semaine.
Merci Géraldine Matioli. Monsieur Eric Kessekou, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Béni au Nord Kivu.
Je réponds au nom de Gérald Kambale Kazingoufou. J'appelle à partir de Béni. Donc, ils savent que l'appareil judiciaire congolais est au service du pouvoir. Dommage que dans notre pays, l'éloquence de nos politiciens est utilisée pour maquiller le mal, on peut dénier les évidences. Or, la justice étant le reflet d'un régime, il est utopique de proposer au même régime des mécanismes qui n'agiront à contre-courant de sa philosophie. Donc, ces états généraux ne sont que des distractions parce que tous les magistrats doivent allégeance au pouvoir qui les nomme en dépit de leur bonne foi et compétences, par peur d'être virés, perdent leurs emplois. Et aussi, ne sont pas à l'abri de la pression malgré leur noble mission.
Réaction, Koukou Kiesi.
En partie, il peut avoir raison, mais tous les magistrats ne cèdent pas à la pression. Pas du tout. Je le dis.
Les magistrats ne sont pas indépendants, comme l'a dit
Maître Kabongo. Je dis non plus. Je me réjouis d'avoir écouté qu'il a fait partie d'une cellule technique du ministère de la Justice. Mais je suis étonné qu'il nous rejette la balle en disant que nous devons nous poser des questions. La question que l'on doit nous poser, c'est de savoir pourquoi ces états généraux n'ont pas eu lieu avant. Parce que le même problème se posait. Le problème de la corruption est souvent renchéri avec le problème des trafics d'influence. Là, ça vient des autres pouvoirs sur le pouvoir judiciaire. Il y a aussi le problème de l'autonomie fonctionnelle du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire n'a jamais eu un débat autonome depuis longtemps. Ce sont des problèmes qu'on doit poser dans le cadre de ces états généraux. Mais je dis ceci. Dire que tous les magistrats sont sous la coupe du pouvoir, c'est mal voir les choses. C'est mal voir les choses. Pourquoi je le dis? Parce que la Constitution dit clairement, dispose clairement, que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. C'est aux magistrats d'affirmer leur indépendance.
Dans la théorie, oui, mais dans la pratique...
Je ne parle pas de la théorie. Je parle de la pratique. C'est au juge d'affirmer son indépendance. Si le juge se met sous la coupe du pouvoir, sous la coupe d'un député, ou sous la coupe d'un individu qui n'est pas du pouvoir, parce que quand on est sous la coupe d'une personne, ce n'est pas seulement une question de pouvoir politique, ça peut être également sous le coup du pouvoir financier. C'est cela que je vois. Donc, le magistrat est appelé, et je le dis et je le souligne, à affirmer son indépendance. Moi, quand je traite mes dossiers, je veux donner mon exemple, je suis sous l'autorité de la... Je ne vois pas comment une autorité peut m'imposer une ligne de conduite. Alors, si un magistrat se met sous la coupe d'une autorité du pouvoir ou d'une autorité quelconque ou d'une personne à cause de son argent, c'est la responsabilité du magistrat. C'est pourquoi moi je me réjouis que ces états généraux soient initiés par le gouvernement, je souligne là-dessus, pour que cette question, qu'on en discute au-delà du pouvoir judiciaire. Parce que lorsqu'on posait le problème en termes de syndicats, nous étions marginalisés.
Excusez-moi, j'allais vous poser cette question.
On était marginalisés par le même gouvernement. C'est pourquoi je me réjouis de ce que fait son excellence monsieur le ministre Tambwe Mwamba. On était marginalisés par le même gouvernement qui nous traitait de tout le nom. Nous avons posé le problème de la corruption et nous avons dit, nous Sinamac, que le véritable problème au niveau de la justice, c'est d'abord de relever le niveau de condition sociale et professionnelle des magistrats. On n'a pas été suivi. Le président de la République, qui a été magnanime par son discours, a même dit que le gouvernement avait prévu un salaire X pour les magistrats. Nous l'avons relayé. Le gouvernement ne nous a pas suivis. Donc, nous estimons que si le gouvernement aujourd'hui parle des états généraux, nous devons parler de toutes ces questions-là, parce qu'on ne nous a jamais suivis.
Et vous pensez que vous serez suivis lorsque vous en parlerez dans
cet état généraux? Nous pensons que nous serons suivis, parce que cette fois-ci, non seulement ce sera nous qui en parlerons, mais également le gouvernement et tout le monde, parce qu'il y a tous les acteurs de la vie sociale qui sont associés à cette question. Donc c'est une question qu'il faut ramener au niveau national. Parce que la justice ne concerne pas que les magistrats, ça concerne également les justiciables. Et nous les magistrats, quelque part, nous serons aussi justiciables. Donc, si nous sommes appelés à défendre nos droits, nous tous citoyens congolais, nous devons avoir une justice réellement indépendante. Avoir des magistrats réellement responsables de ce qu'ils font. On n'a pas besoin d'une justice avec des magistrats irresponsables. Donc c'est ça la question qui est posée dans ces états généraux. Et il est toujours important, dans la démocratie, que quelque part, toute la nation puisse parler d'une question qui la dérange. Il s'agit d'une question d'une justice qui est complètement rouillée par la corruption, qui est complètement rouillée sur des aspects techniques, parce que je parle de la médiocrité, je sais de quoi je parle. Donc, on doit avoir une justice qui soit capable, comme le chef de l'État le dit, de garantir la dignité de l'homme, de sécuriser son patrimoine et de sécuriser également les transactions. Et pour ce faire, il faudra avoir des magistrats réellement compétents sur le plan technique.
Merci.
Et moralement à point de le faire.
Merci Eric Koukou Kiesse, Maître Achille Kabong. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au nord Kivu, au sud Kivu.
Robert Bahomé de Bukavu au sud Kivu. L'organisation de ces états généraux sur l'état de la justice en RDC est à saluer dans la mesure où deux sortiraient des solutions efficaces et efficientes aux problèmes ou aux maux qui gangrènent aujourd'hui l'administration de la justice du pays. Mais au fond, je me demande s'il faut combien de rencontres pareilles pour que la RDC se sente dotée d'une administration de la justice digne, c'est-à-dire d'une administration de la justice équitable, d'une administration de la justice qui soit réellement au service de tous et non d'une administration de la justice à différentes vitesses.
Réaction.
Ma réaction est celle-ci. Il a tout à fait raison. Mais ces espoirs peut-être risqueraient d'être déçus si, au niveau des états généraux, on ne prend pas les taureaux par les cornes. Je vais dire ceci, madame. Supposons qu'une personne commette une infraction aujourd'hui, se rende coupable de malversation dans l'administration publique. Vous savez que dans notre administration publique, quand vous avez le grade de chef de bureau, chef de direction ou directeur, vous ne pouvez pas être déféré en justice par citation directe. Vous avez un privilège de poursuite, un privilège d'instruction. Il faut une plainte préalable qui soit déposée devant le procureur général près de la cour d'appel. Parce que je vais dire ceci, et que le premier substitut, il me comprend très bien, dans la dialectique sous-jacente, eu égard à la loi suprême du pays, à l'actuelle constitution, seules les cours et tribunaux sont indépendants. Les magistrats ne sont pas indépendants. Et nous savons bien qu'en exerçant leur métier, les juges et les magistrats, madame, ils ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. Lorsque vous conduisez une telle personne par plainte devant le procureur général près de la cour d'appel ou devant peut-être le parquet de grande instance, alors, dans la dialectique sous-jacente, quand l'on raisonne, l'on trouve ceci. Le magistrat qui doit instruire, instruit par délégation de pouvoir. Il prend, comme lui le premier substitut, prend le dossier, il transmet à son chef. Mais comme il n'est pas indépendant, parce que la loi sur l'organisation de la compétence judiciaire prévoit ceci. Les procureurs généraux de la République exercent leurs prérogatives sous l'autorité du ministre de la Justice. Et la Constitution a scalpé l'indépendance de tous les magistrats. Et on soumet tous les procureurs généraux de la République à l'autorité du ministre de la Justice. C'est-à-dire, vous, journalistes, aujourd'hui, si vous commettez une infraction, il est difficile de vous défendre.
Et donc, vous pensez qu'il
devrait
revoir cet article ?
On doit revoir, modifier la Constitution et vite donner le pouvoir aux magistrats. Parce qu'on leur avait dit, à l'époque, de reviser pour le scrutin majoritaire à un tour. Qui leur avait demandé au Parlement d'aller toucher à l'article 149, escalper... Parce que l'article 149 disait ceci. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Il est dévolu aux cours et tribunaux et aux parquets qui y sont rattachés. Qui avait demandé aux députés à l'époque de scalper cette assertion-là aux parquets qui y sont rattachés? Vous voyez? Alors, il devient difficile dans ce cas-là, par exemple, vous journalistes, de vous défendre. Parce que si le ministre de la Justice donnait injonction au procureur général de la République et lui dit « Maintenez ce journaliste dans cette position-là, vous ne serez pas libéré. » Alors, c'est que les prérogatives qu'État est en train de soutenir le premier substitut Eric Coquet, c'est du bluff. Comment va-t-il exercer bien son métier à partir du moment que la loi suprême du pays lui a amputé son indépendance?
Mais vous l'avez entendu. C'est des questions qui seront discutées au cours de ces états généraux.
Mais c'est ça le problème.
Il a reconnu, il y a beaucoup de mots qui gangrènent la justice aujourd'hui, entre autres la médiocrité, qu'on retrouve aussi quelquefois chez les avocats.
Pourquoi il y a impunité? Non, nous sommes une profession libérale.
Partenaire quand même.
Le magistrat émarge au statut du personnel de carrière de service public de l'État, il est payé par l'État. Nous sommes une profession libérale. Il ne faut pas confondre les choses. Vous comprenez? Et vis-à-vis d'eux, nous avons encore le statut d'auxiliaire de la justice. Vous comprenez? Alors, je dis ici, par exemple, en matière d'impunité, il est difficile de punir en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a des immunités. Il y a des privilèges de juridiction, des privilèges de poursuite. Et tout cela rend la machine de la justice trop lourde.
Merci.
Vous comprenez?
Merci, Maître Achille Kabongo. Géraldine, il y a aussi une question pour vous qui nous vient de Kinshasa.
Blanchard Loan, j'appelle depuis Kinshasa. Tant que l'indépendance du pouvoir judiciaire en RDC resterait toujours partiale vis-à-vis d'injonctions émanant du pouvoir exécutif, la tenue de ces états généraux ne servirait à rien du tout parce que les problèmes qui ternissent de temps en temps l'image de notre justice est le non-respect du principe de séparation du pouvoir.
Comment vous répondez à cet auditeur, Géraldine?
Oui, je suis assez d'accord. Je pense que ça revient à ce qui a été dit jusqu'à présent, qui est en effet un problème clé de la justice au Congo, ce manque d'indépendance. Et je crois dans le domaine des poursuites pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, ça se passe dans le système judiciaire militaire, mais le problème est le même, c'est-à-dire qu'il y a souvent des ingérences de la part de la hiérarchie militaire ou bien de certaines personnes, des officiels, qui vient saper en fait le travail, parfois mené de façon très courageuse, par des auditeurs au niveau local. Et donc, en effet, je crois qu'il faut arriver à réfléchir lors de ces états généraux à ce qui peut être fait au niveau de l'indépendance de la justice. Je pense que les textes sont là, avec des problèmes, comme ça a été souligné par rapport à l'article 149. Mais je pense, par exemple, l'impossibilité de retirer, de déplacer les magistrats, c'est quelque chose qui est garanti en droit congolais. Et pourtant, on utilise encore ça pour intimider les magistrats et les procureurs. Quand ils ne font pas ce qui est attendu d'eux, ils sont déplacés rapidement, envoyés dans un coin du Congo où personne ne veut aller. Donc il y a des principes et des règles qui sont pourtant bien établis en droit congolais et qui doivent être respectés. Au niveau des poursuites pour les crimes graves, je pense que l'idée derrière la proposition de chambre spécialisée mixte, c'est d'amener une certaine expertise, parce que ce sont des crimes extrêmement complexes qui demandent une expertise médico-légale ou en termes de protection, en termes d'interrogation des témoins et des victimes qui est très spécialisée. Et donc, amener des experts internationaux, l'idée, ce serait de renforcer les capacités du personnel judiciaire congolais, mais ce serait également, en ayant cette présence extérieure, de pouvoir renforcer aussi la capacité des cours et tribunaux congolais, en disant, voilà, il y a un œil qui est posé et peut-être l'ingérence est un peu moins facile. Mais je suis d'accord avec cet auditeur sur le fait que l'indépendance de la justice au Congo est peut-être le chantier le plus important aujourd'hui.
Alors, dans les réformes et actions prioritaires à intégrer que vous proposez, pour les recommandations qui seront adoptées par les États généraux, vous parlez de l'accès à la justice.
Oui. C'est à moi que vous adressez, pardon.
Oui, Géraldine. Human Rights Watch a fait une proposition des réformes actions prioritaires à intégrer dans les recommandations qui sont adoptées par les États généraux. Vous parlez de l'accès à la justice. Est-ce que vous estimez qu'il y a un problème par rapport à l'accès à la justice en RDC?
Oui, je pense qu'il y a plusieurs problèmes dont on devra discuter. Mais en termes d'accès à la justice en ce qui concerne les crimes les plus graves, je crois qu'il y a peut-être trois mesures que je peux mentionner maintenant. Donc d'abord, ce qui concerne l'aide légale, je crois que ça reste un problème au niveau des accusés qui n'ont pas les moyens de payer un avocat ou bien des parties civiles qui n'ont pas les moyens de payer un avocat. Comment véritablement avoir accès à la justice? Et je crois que ça pourrait être réformé avec une loi qui prévoit une aide légale payée par l'État pour ces personnes indigentes. Un autre aspect, évidemment, c'est la question de la protection. Encore une fois, je parle des procédures concerne des crimes extrêmement graves et dans lesquels on voit que souvent les victimes ou même les témoins sont intimidés avant ou pendant les procès. Et là encore, il n'y a pas de cadre vraiment juridique en République démocratique du Congo pour assurer cette protection. On a vu un certain nombre de mesures progressives qui ont été prises par la Cour militaire à Bukavu ou par la Cour opérationnelle à Goma. Mais tout ça devrait être, je pense, mis dans une loi pour que ça puisse être utilisé de façon plus systématique. Et puis peut-être créer aussi une agence nationale de protection qui pérennise en fait l'expertise qu'on voit au sein de la MONUSCO qui aide à la protection. Mais la MONUSCO, évidemment, ne sera pas toujours en RDC, et donc c'est important de transmettre cette expertise au système judiciaire national. Et puis une dernière mesure rapidement à mentionner peut-être, c'est le paiement des jugements en réparation qui sont prononcés par les tribunaux congolais au profit des victimes et qui ne sont jamais payés jusqu'à présent dans toutes les affaires de crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Donc réfléchir à une stratégie d'exécution des jugements et puis une stratégie peut-être à plus long terme de réparation pour les crimes les plus graves, ça nous paraît des choses qui seraient importantes pour faciliter l'accès à la justice.
Merci Géraldine. Eric Koukoukiese, par rapport à l'accès à la justice, est-ce qu'il n'y a pas l'effort pédagogique à faire quand même pour aider la population à savoir comment s'y prendre? Parce que beaucoup de gens ne savent pas comment, lorsqu'ils ont un problème, comment il faut s'adresser à la justice.
Le principe d'accès à la justice est clair. L'accès à la justice est gratuit. Mais il est de frais que l'on paye, par exemple lorsqu'on saisit une juridiction, Mais il y a également le cas des indigents qui sont pris en compte dans la procédure judiciaire. Donc le principe, c'est la gratuité d'accès, tout comme dans le service administratif en général. Mais ce que je voudrais relever, tout en répondant à votre question, c'est que lorsqu'on parle des états généraux de la justice, il ne faut pas épingler des secteurs particuliers, comme le fait Mme Géraldine. Ça, je regrette. Les états généraux de la justice, c'est le fond de la justice en général. Il ne faut pas voir des graves crimes. Non, il faut d'abord voir le justiciable le plus faible économiquement, qui a un problème devant la justice, comment il va accéder à la justice. Il faut qu'il comprenne que porter plainte, on ne paye pas. Saisir une juridiction, évidemment, il y a des frais. Mais lorsqu'on a un certificat d'indigence qu'on peut obtenir devant un bourgmestre et qu'on le présente, on sera émargé de ces frais. Donc il faut que les gens comprennent que pour saisir la justice, ce n'est pas une question d'argent. Et c'est par rapport justement à cette mentalité-là que l'on devra clarifier les choses dans le cadre des états généraux de la justice.
Voilà, généralement quand les gens veulent saisir la justice, on leur demande des frais, il faut
tout
payer.
À fait.
Ce sont
des faux frais qui ne sont pas justifiés, que ce soit un magistrat, que ce soit un agent judiciaire qui demande, ce sont des faux frais qui ne sont pas justifiés. Et c'est dans ce cadre-là, c'est pourquoi je disais qu'il faudrait ramener ça à un niveau national, pour que finalement les gens comprennent comment la justice doit fonctionner dans un État. Et c'est là il faut maintenant encourager ce que le gouvernement fait. Il faut que la population comprenne que la justice, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour les riches, mais c'est pour tout le monde.
Alors, vous allez devoir aussi conclure, Eric Koukou-Kiesse. Vous avez espoir que cette fois-ci, ça sera la bonne. Les recommandations seront appliquées.
Je suis un syndicaliste. Moi, je ne parle pas en termes d'espoir. J'en parle en termes d'actes. Donc, le gouvernement a fait sa part. Nous, les magistrats, nous devons faire notre part. Et dans le cadre des états généraux, j'ai parlé des états généraux dans le cadre du fonds de la justice en général. C'est-à-dire, on doit voir d'abord les conditions de travail de la justice. Donc, l'état des lieux de la justice. Pourquoi il y a la corruption? Pourquoi il y a la médiocrité? Pourquoi il faudrait relever le salaire des magistrats? Comment les justiciables peuvent accéder à la justice? Qu'est-ce qui bloque? Et ce sont les réponses à cela qui seront données en termes de recommandations qu'on doit traduire en des actes concrets.
Merci, Eric.
Chacun ayant sa part de responsabilité.
Merci, Eric. Pour Maître Achille Kabongo, vous allez aussi conclure, même si vous êtes quand même assez pessimiste à la tenue de ces états généraux.
Ok. Rapidement, j'aimerais dire ceci, que l'effort pédagogique que je voyais, par exemple, à l'époque, son Excellence Luzolo, tenir chaque vendredi des rencontres avec les justiciables qui venaient lui exprimer leurs doléances et qui lui disaient ce qu'ils avaient subi comme injustice, par exemple au niveau des procédures. Gratuité d'accès à la justice, je vous dis que en République démocratique du Congo, la justice c'est pas pour les pauvres malheureusement. Quand vous êtes pauvre, en tout cas, cherchez d'autres moyens pour qu'on vous rende justice. Je crois, moi je suis avocat, j'ai l'expérience dans ce domaine, c'est la justice à coup de billets verts. C'est la justice pour les riches. Quand vous n'avez pas des billets verts, on ne vous rendra pas justice. Nous, les avocats et même les magistrats, parfois nous magouillons contre les justiciables. La justice au Congo est une vaste magouille. Et je conclue en disant ceci, comme le chef de l'État a nommé M. Luzolo conseiller principal en matière de lutte contre la corruption, je demande à son Excellence Tambwe Mwamba de réhabiliter la cellule au niveau du ministère pour que la présidence de la République puisse avoir le feedback de la lutte contre la corruption. Et Merci. Je pense que ça va booster un peu les actions
Merci,
du gouvernement.
Merci, Maître Achille Kabongo. Géraldine, en un mot pour conclure.
Oui, merci. Ben, je voulais dire encore une fois qu'on espère que le résultat de ces travaux cette semaine, ce sera une liste de mesures véritablement concrètes qui soient là pour régler les problèmes qui vont être identifiés cette semaine. Et je crois quelque chose de très important, c'est que les états généraux identifient également un mécanisme de suivi pour que tout ça ne soit pas seulement des mots en l'air. Donc il y a vraiment un mécanisme de suivi, un plan de travail. Il y a des instruments qui existent, par exemple le groupe de travail justice et droits humains entre le gouvernement et les partenaires de développement.
Merci Géraldine, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Alain Rung, Berry Franklin Luchaka sous la supervision de Ben Kabamba. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la prise de son au micro Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.